Bien-aimé Père Céleste, nous sommes assemblés ce soir, encore au nom de ton bien-aimé Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu incarné, venu pour entendre tes oracles, venu également pour te parler, pour nous accorder sur les besoins que nous avons. Seul peut les combler. Ce sont des besoins que le monde ne peut satisfaire. Mais toi, tu peux le faire. Ceux qui ont besoin de consolation, ceux qui ont besoin de réconfort, ceux qui ont besoin d'un nouveau courage, ils s'attendent à toi ce soir. Demandons pardon pour nos péchés. Et nous attendons à toi encore. Écoutez cette parole qui vivifie par l'Esprit Saint. Nous te le demandons de nous inspirer, de nous aider dans l'audition. Tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons chanté « Sion, réjouis-toi ». C'est vrai que, humainement parlant, beaucoup de sujets de réjouissance pour le moment. Mais je crois que c'est un peu le lot de la terre. Non, notre pèlerinage ici-bas, nous avons aussi chanté que, une fois arrivé là-bas, ces choses ne seront plus. Le beau-frère, donc le grand frère du mari de la sœur Sylvie, décédé dimanche soir, dimanche en tout cas. Pour ce qui est de la sœur Isabelle, vous êtes au courant, puisque c'est depuis la semaine passée. C'est ainsi. Comme nous l'avons dit, dimanche, nous nous plions à sa volonté. Mais malgré toutes ces choses, de manière tout à fait incompréhensible, l'apôtre Paul nous dit ceci. Pouvons nous lever. Trois mots. À Thessaloniciens 5, 7. Trois mots. Les trois mots du titre également. Verset 16. Soyez toujours joyeux.
Amen.
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 Que Dieu soit loué.
Amen.
Que Dieu bénisse sa parole pour vous.
Amen.
Il le dit aux Thessaloniciens. Il écrit aux Thessaloniciens, poussé par le Saint-Esprit. Et pourtant, les Thessaloniciens, pour la plupart, étaient dans le deuil. Car au verset 13 du chapitre 4, la même épître, il parle de frères qui sont partis, ont quitté. Verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres. Il ne nous empêche pas de nous affliger. Mais il dit, nous avons une manière de nous affliger. Nous, les chrétiens, ils n'ont point, pas, nous qui avons une espérance, nous avons notre manière de nous affliger. Et dans notre affliction, nous avons la parole de Dieu pour nous consoler.
Amen.
Il continue à la fin D'abord, il parle du verset 14 au verset 17. Il parle de la résurrection. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Quand il nous dit, soyez toujours joyeux, nous ne parlons pas de la joie que vous avez en venant de décrocher un boulot. C'est une bonne chose, mais c'est une joie qui peut être vite ternie. La joie de gagner à la loterie, il ne s'agit pas de cette joie-là. Mais la joie que nous avons comme étant le fruit d'une étroite relation que l'on a avec Dieu. Cette relation-là produit de la joie de Dieu qui est différente. Lui-même, Paul, nous savons dans 2 Timothée, il dit ceci. Paul nous dit que sa vie n'était pas facile. Amen. Mais il est le premier à dire aux gens, soyez toujours joyeux. Il dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Donc toi, Timothée, tu m'as vu écrire aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Mes projets, j'avais des projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. J'ai jamais changé, toujours été les mêmes, dans les bons et les mauvais jours. Tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Cette relation qu'il avait avec Dieu était une consolation pour lui. Ce qui fait qu'il ne perdait jamais cette joie qu'il avait, donc la joie qu'il exhortait les autres d'en avoir. Soyez pas triste. Soyez ne vivez pas triste. Dieu ne veut pas que l'on soit triste. La joie, c'est pas le monde qu'il a inventé. C'est pas la terre qu'il a créée, mais la joie vient de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens pensent que Dieu est un rabat-joie qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et avec ça, par conséquent, que l'église où l'on enseigne la parole de Dieu, c'est une église rabat-joie. Vous ne pouvez rien faire, ça c'est non, vous ne pouvez pas, alors que vous avez envie de le faire. C'est un mensonge du diable. Vous savez que Dieu lui-même, Dieu est un, il est dans la joie. La joie, Dieu connaît. Psaume 104. Psaume 104. Verset, nous allons voir ce qui réjouit Dieu, ce qui le rend dans la joie. Verset 30. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés. Savoir qui, regardez en haut, il y a les animaux, il y a tout ça. Il y a ces créatures. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Quand il voit ses œuvres, ça le met dans la joie. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous-mêmes, nous contemplions ses œuvres. Parce qu'au milieu de toutes nos difficultés, les œuvres de Dieu nous parlent. Ça nous parle. Et puisque Dieu connaît la joie, Dieu ne veut certainement pas que son peuple vive comme étant toujours sous un lourd fardeau. Que nous vivions, que cette vie terrestre soit pour nous une expérience triste. Dieu ne veut pas ça. Il nous dit par Paul, il nous dit, lorsque nous sommes endeuillés, lorsque nous avons perdu quelqu'un, nous avons le droit d'être affligés. Mais nous ne sommes pas sans espérance. Quand nous considérons la nature, quand nous considérons ses œuvres nous réjouissent les cœurs, même lorsque nous sommes dans la difficulté. Pourquoi? Parce que sa création nous parle de ce que Dieu est capable de faire. La création de Dieu nous parle de naissance. La création de Dieu nous parle de vie. La création de Dieu nous parle de la mort et la création nous parle de la résurrection. Si nous observons bien la nature, nous voyons que ce n'est pas terminé. Que Dieu est un Dieu de résurrection. Et les églises ont la responsabilité de prêcher cela. Lorsqu'on vous apporte les commandements divins, c'est pour que vous soyez dans la joie. Jean 15. Les commandements divins ne sont pas là pour nous mettre dans la tristesse. Dieu ne demande pas c'est que nous marchions avec des allures austères. Il veut que nous puissions marcher en bombant le torse, en chantant des cantiques. Amen. Parce que celui qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il fait? Il chante des cantiques. Jean 15, Jésus-Christ dit ceci. Verset 7. Si vous demeurez en moi, ce n'est vraiment pas triste d'être en Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Amen.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple de Jésus-Christ, il est toujours joyeux. Il peut être frappé par la douleur, par la souffrance, par ces choses-là, mais il est toujours joyeux. Si vous, donc, vous serez mes disciples, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Alors écoutez ceci, si vous gardez mes commandements, si vous les gardez, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors il dit, je vous ai dit ces choses, pas pour le plaisir de vous le dire, pas pour le plaisir de vous interdire quoi que ce soit. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Oui. La joie, elle vient de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu donne est un esprit de joie. L'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. C'est la paix.
Amen.
Oui. C'est un esprit de joie. Et nous sommes dans la joie.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu.
Amen.
Oui. Le jour de la résurrection, les femmes, les églises, elles ont apporté la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Les disciples, ceux qui avaient suivi Jésus-Christ, qui étaient enfermés ensemble, voyant le Christ crucifié, voyant combien il a souffert, voyant qu'on l'a mis au tombeau, qu'on a couvert le tombeau. Les disciples ont oublié de regarder la parole qui réjouit. ou bien ils ne l'ont pas comprise et ils étaient dans la tristesse. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, les chrétiens seraient tristes aujourd'hui. Parce que le monde entier sait, même les incrédules, ils savent que Jésus-Christ est mort. Ça, ils le savent. Alors ils disent, c'était un homme comme les autres. Ce n'était pas le Fils de Dieu. Dieu n'existe pas, ou des choses comme ça. Mais vous, vous savez qu'il est vivant.
Amen.
Parce que vous avez fait l'expérience qu'il est vivant.
Amen.
Ça a commencé d'abord par l'Église, par les femmes qui vous ont annoncé, en fait, ce que le monde vous dit. Une Église qui prêche la parole de Dieu, évidemment. Il vous dit, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Ils étaient tristes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient reçu ce message directement par des anges. Les anges avaient apporté ce message aux églises, comme l'église de Laodicée aujourd'hui a eu un messager qui lui a apporté un message de la part de Dieu, disant que Jésus-Christ est vivant, qu'il n'a pas changé. De même qu'il guérissait hier en Galilée, de même qu'il ressuscitait hier en Galilée, il ressuscite encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Luc 24, nous lisons ceci. Dans Luc 24, verset 2, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a volé notre Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent. Ce n'étaient pas des hommes simples. C'était deux hommes particuliers, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et se souvint des paroles de Jésus.
Amen.
Amen. Eh bien, l'Église, les églises ont prêché cela. Elles ont eu l'inspiration. Elles ont eu ce message que Dieu a envoyé par des anges. Et les anges s'en sont allés. Maintenant, il appartenait aux églises la responsabilité de l'annoncer aux disciples, de ceux qui suivaient Jésus-Christ. Et elles ont annoncé, les disciples n'y ont pas cru. Résultat, ils sont tristes. C'est la tristesse annoncée. Et justement, ils vont dire ceci, je vais le dire dans Darby, que Scofield met cela autrement, dans Luc 24, au verset 17. Et il leur dit, « De quoi parlez-vous? Quels sont donc ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes triste et ça vous tient triste? » Eh bien, Quand on vient à l'assemblée, on ne vient pas pour en ressortir triste.
Non.
Qu'importe ce que vous subissez, l'Esprit veut vous redonner du courage.
Amen.
Vous redonner de la force.
Amen. Merci, Seigneur.
Quand vous rentrez, mais vous n'avez pas à être triste. Amen. Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem ?» que tu ne saches pas les choses qui sont arrivées ces jours-ci. » Et il leur dit, « Lesquelles ? Quelles sont ces choses tristes ?» Et ils lui dirent, « Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. » Oh, nous espérions, ouais, ils ont perdu l'espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Il dit, nous espérions, c'est à l'imparfait. Ça veut dire que cette espérance n'existe plus. Qu'il était celui qui doit délivrer Israël, mais encore avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées, mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues disant qu'elles avaient vu aussi une vision d'ange qui disent qu'il est vivant. Est-ce que vous croyez aux visions d'ange?
Amen.
Que Dieu soit loué. Vous savez, il n'y a pas de raison qu'ici sur la terre, nous soyons tristes. Il y a un cantique que nous chantons ici à l'Assemblée. Dans les cieux, l'on chante gloire à Dieu. Ce n'est pas tristement qu'il chante. Il chante avec joie.
Amen.
Et dans le ciel, il y a de la joie.
Amen.
Vous savez, les pharisiens n'arrêtaient pas de venir toujours enquiquiner le Seigneur. Ils sont venus un jour dans Luc 15, on peut dire ça. Ils sont venus, pourquoi ? Ils étaient embêtés. Ils étaient étonnés de voir que Jésus-Christ pouvait vivre à l'aise avec des gens de mauvaise vie. Que Jésus-Christ pouvait être à l'aise avec un certain frère François. C'est bizarre. Comment est-ce qu'avec ce genre de frère, vous pouvez être dans la joie? Il n'arrête pas de vous interdire des choses. Il n'arrête pas de vous dire pas ci, pas ça. Et même pas ça. Ça, c'est encore bien parce que ce qu'on vous interdit, là, sont les choses de Dieu. Il est de mauvaise vie. Mais Jésus était vraiment à l'aise avec eux. À tel point que ça indignait les pharisiens. Quand les pharisiens se trouvaient devant un frère François, ils avaient l'air vraiment affligés. Tellement le péché du frère François leur pèse sur les épaules, mais leurs péchés, ils les ont oubliés. Alors, ils disent, tous les publicains, les gens, tous de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens ont dû regarder la main sur la joue, cet homme, et il dit qu'il est fils de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Si c'était un pharisien au milieu de ces gens-là, il allait se cacher pour que vous ne le voyez pas au milieu d'eux. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Vous savez, Jésus va leur parler, il va leur donner trois paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, la parabole du fils perdu. Regardez la fin de ces trois paraboles. Oui. Donc, les brebis perdues, verset 5. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules.
Amen.
Dites amen à ça.
Amen.
Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il parle de joie. Dans la drachme perdue, la femme recherche sa drachme, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd de une, allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin. Ne se décourage pas jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. La joie, elle est contagieuse. Amen. Et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Amen.
Oh, gloire à Dieu. Le fils perdu, le fils prodigue. Oh, le frère, vous savez, le frère était triste de voir ça. Mon frère, il a fait des bêtises et toutes ces choses, et voilà qu'on le reçoit en grande pompe. Et l'on danse et tout ça. Son père lui dit, verset 29, mais il répondit d'abord, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père s'ouvrit, on lui ouvre la porte, son père sortit et le pria d'entrer. « Entre, mon fils !» Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. On t'a demandé d'entrer. Ah là là. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Vous voyez ? Donc lui, les ordres de son père étaient un fardeau pour lui. En fait, il gardait ça. Il obéissait juste pour obéir. Or, ces ordres-là étaient de nature à le rendre heureux. Ouais. David, avant qu'il ne pêche, c'était « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur. » Ça, c'est David. David disait, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ça, c'est David. Mais quand il est tombé, psaume 51, ça, c'est la personne qui vous crie Amen à l'Assemblée. Tant que ça va, il vous crie Amen à l'Assemblée, mais le jour où il est tombé, les Amen sont terminés. Avant, le prédicateur pouvait être son frère, après, le prédicateur devient son ennemi. Mais c'est la parole de Dieu. Psaume 51. Pour David, toi tu es la joie même personnifiée. Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Mais que s'est-il passé? Psaume 51. Vous voyez ce qui vous vole votre joie? C'est une des choses qui vous vole votre joie. L'autre chose qui vole la joie, c'est quand vous ne comprenez pas la parole. Psaume 51. Ah là là. On va lire. D'abord, au verset 3, il commence. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Et comme a dit une fois frère Jacques, je crois, disait David, certainement, après avoir péché, il continuait à aller au temple. Il continuait à aller au temple. C'était Amen. Tout le monde voyait David bien zélé. Et puis, Nathan est venu lui parler. La parole de Dieu lui a été apportée. Les amens de David se sont tus. La harpe de David, il a dû la déposer. David, mais joue-nous la harpe. Il va vous inventer une excuse. Et il est là, il dit, j'ai péché contre toi seul, verset 6. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et le jour où vous prêchez quelque chose qui touche quelqu'un, ce jour-là, l'attitude de la personne change vis-à-vis de vous. Oui. C'était quelqu'un qui pouvait venir vous dire chaque fois, après une prédication, « Merci pour la prédication, frère. » Mais après ça, c'est fini, les merci pour la prédication. Parce que vous lui avez dit la vérité. Et il dit, David ne discute pas en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Alors, je saute, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » David l'a perdu. Il l'avait avant. S'il dit « Rends-la moi », ça veut dire qu'il l'avait avant. Et il a perdu à cause du péché. Satan, c'est un grand menteur. Il ne faut pas le minimiser sur ce point. Il va vous faire croire que c'est ça le bonheur. Et puis après, il vous lâche. L'assemblée devient insipide. Le goût même des cantiques que vous chantiez n'y est plus. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez changer d'assemblée. Hein. Allez d'assemblée en assemblée. Tant que la parole de Dieu sera apportée, ça reviendra toujours au-dedans. Vous savez, il y a quelque chose qui attire hein, dans la parole de Dieu. Quand bien même ça fait mal, ça écorche. Si vous aimez écouter, vous irez quand même.
Amen.
Parce qu'on peut dire que, comment il s'appelle, Hérode, il était un masochiste. Jean-Baptiste, dès que Jean-Baptiste voyait, il changeait la prédication. Peut-être il disait, peut-être qu'aujourd'hui, il va me laisser tranquille. Eh bien non. Sa femme lui disait, n'y allons pas. Tu le connais. Il dit, non, allons-y, peut-être qu'il va changer. Il dit des choses intéressantes, des choses très bien, allons-y. Et ils y allaient. Et puis, patatras, Jean-Baptiste est nommément Hérode. Finalement, pour que ça se termine, sa femme dit, coupe-lui la tête. Mais Jean-Baptiste continue à le hanter, hein. Hérode. Parce que quand on va lui parler de Jésus-Christ, je crois, c'est ça, il va dire, c'est Jean qui est ressuscité. Ça le poursuivait. On ne se débarrasse pas de Jean-Baptiste comme ça. Vous pouvez lui couper la tête, mais son message, c'était, repentez-vous.
Amen, amen.
Dans Ésaïe 65. Donc David a perdu la joie à cause de son péché. Beaucoup de frères et de sœurs perdent leur joie. La joie d'adorer Dieu, la joie de louer Dieu à cause du péché. Ésaïe 65. Verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Parce que les choses passées peuvent vous attrister. Réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. C'est pour cela que Dieu crée Jérusalem, pour que Jérusalem soit dans l'allégresse et de mon ferai de mon, je, et son peuple pour la joie. C'est pour cela que Dieu vous a créé, peuple de Jérusalem. C'est pour la joie. Ferai de Jérusalem mon allégresse. De mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça veut dire que celui qui mourra à 100 ans, quand il va mourir là à 100 ans, n'aura pas eu le temps de se plaindre de ses de sa santé. Il sera toujours bien vigoureux. Ce royaume. Nous en parlerons un jour de ce royaume. Nous disions donc, le Saint-Esprit que Dieu donne à l'Église est un esprit de joie.
Amen.
1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit ceci. Malgré ses souffrances, malgré ses persécutions, l'apôtre nous dit, 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si vous l'aimez, ce sont des choses qui sont préparées pour vous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, quand nous voyons cela, quand le Saint-Esprit qui sonde tout, qui sonde les choses de Dieu, qui vous montre au travers de la création, ce Dieu de la guérison, ce Dieu de la résurrection, ça ne peut que remplir votre cœur de confiance, de joie, de chanter des cantiques. Vous savez, j'ai un potager au mois de mai, parti en Allemagne. J'avais demandé aux enfants, écoutez, arroser mes légumes de temps en temps. C'était trop leur demander. Je suis revenu, j'ai trouvé un plant de tomate, mais complètement malade. Il est mort, celui-là, ce plant de tomate. Il est mort. Et quelque chose m'a dit, donne-lui de l'eau. J'ai mis de l'eau. Quelques heures plus tard, le même jour, je suis revenu, la plante était à nouveau debout.
Amen.
J'ai dit, il y a une résurrection.
Amen.
Et c'est la nature qui vous parle. Vous ne pouvez pas discuter là-dessus. C'est sans discussion, il y a une résurrection. Un autre plant que j'avais laissé dans la maison parce qu'il faisait trop froid. Le plan est devenu chétif. Et quand je l'ai sorti, c'était quasiment trop tard. Il était presque mort. Et il a fait comme cela quasi 2 mois. Au mois de juin. Si vous allez là-bas aujourd'hui, vous allez le voir, c'est le plus touffu de tout le jardin. Il y a une résurrection. La nature nous en parle. N'en doutez pas. Gloire à Dieu. Et Paul nous parle de l'Esprit de Dieu, qui sont les choses de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous montre, quand vous regardez par l'Esprit Saint, la création, vous ne pouvez pas être incrédule. C'est pourquoi Paul, lui, malgré ses souffrances, s'il exhorte les gens d'être toujours joyeux, c'est que lui-même était toujours joyeux. Amen. Et si nous vous exhortons à l'être, nous devons aussi l'être. Pas vous dire, soyez toujours joyeux, et puis après je sors, je suis complètement à plan-plan. Soyez toujours joyeux. Pierre dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 1er. C'est vrai, nous sommes éprouvés. C'est vrai que les épreuves parfois nous attristent. Mais il faut regarder cela comme un sujet de joie. Béni soit, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Le Saint-Esprit qui vous révèle ça. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, les commandements divins ne sont pas là pour abattre notre joie. Au contraire, c'est quand on les enfreint que notre joie est rabattue. Il ne faut pas les enfreindre. Et plus vous faites la volonté de Dieu, plus Dieu est avec vous, plus sa présence vous donne de la joie. Maintenant, ne vous laissez pas entraîner par l'autre là, notre adversaire. Il ne sera pas content de vous voir dans la joie. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra toujours vous rappeler vos bêtises. Chassez-le au nom de Jésus-Christ. Chantez des cantiques et il fuira loin de vous. Soyez toujours. On est affligé, on est joyeux. Pour terminer, l'apôtre dit ceci dans 2 Corinthiens 6. On m'avait écrit, après m'avoir dit plusieurs fois, passant par ici, frère François, oui, regarde un peu l'assemblée, elle se meurt. Oui, frère, Dieu te bénisse. Notre tour, frère François, l'assemblée est mourante. Frère, moi, je ne donne pas la vie. Merci, frère. Dieu te bénisse. Encore une fois, frère François. Il meurt. Merci. Mais bon, si on pouvait un peu discuter. J'ai juste envoyé ça. Écoute. Je sais, nous sommes regardés. Verset 9. Comme mourant. Et voici, nous vivons. Par la grâce du Seigneur. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Nous sommes regardés comme attristés. Est-ce que vous êtes triste?
Non.
Comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Nous aimons avoir une assemblée toujours joyeuse. Même s'il y en a qui tombent, on est toujours joyeux. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4, nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Pas dans nos péchés, non, dans le Seigneur. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est ce qui nous rend joyeux. Je ne suis pas dépourvu. Vous n'êtes pas dépourvu. Nous possédons toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Prions. Soyons toujours joyeux, mes amis. C'est notre droit. Nous avons parlé des droits la semaine passée. Nous ne devons pas vivre en dehors de nos droits. C'est un droit que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui a créé la joie. Il y a la joie dans les cieux. La tristesse est une perversion de la joie. Dieu n'a pas créé la tristesse. C'est Satan qui a perverti la joie. En tristesse. Prions le Seigneur. Père céleste, les animaux, les oiseaux chantent, manifestent leur joie chaque jour, parce qu'ils savent qu'ils ont un Père céleste. Il les garde, qu'il les nourrit chaque jour. Ils ont pleinement confiance que chaque jour, ils mangeront. Chaque jour, ils auront un nid. Parfois, lorsqu'ils rentrent quelque part dans leur nid ou dans l'arbre, lorsqu'arrive le soir, il en manque peut-être un ou deux qui ne sont plus là, qui ont eu quelques problèmes lorsqu'ils sont pendant la journée, qui ont été la proie d'un prédateur. Mais cela ne les empêche pas de continuer à chanter ta gloire, de célébrer les louanges. Pour nous, c'est pareil. Parfois, certains ne rentrent pas. Et la joie que tu donnes, la joie du salut, la joie de la résurrection. Or, lorsque le Saint-Esprit vient nous faire comprendre ta parole et ton plan, le dessein que tu as formé sur nous, alors, comme Cléopas et son compagnon pouvons rentrer cœur rempli de joie au rassemblement au milieu des frères et des sœurs pour célébrer ta gloire. Ne laisse pas l'ennemi venir nous enlever cette joie comme David, cette joie qu'il avait avant lorsqu'il pouvait saisir sa harpe pour chanter son Dieu. Lorsqu'il pouvait jouer de la harpe et chasser le mauvais esprit de Saül. Saül avait de la joie après avoir combattu le lion ou l'ours. David avait de la joie quand il conduisait ses brebis dans les verts pâturages. Cela lui ramenait au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel qui veillait sur lui. Pourquoi il voulait demeurer dans la demeure du Tout-Puissant jusqu'à la fin de ses jours? Mais David a perdu cette joie à un moment donné à cause de son péché. Mais béni soit ton saint nom, il n'est pas resté abattu. Oh, il a été outragé à cause de cela. Ce n'est pas caché. On lui a dit des choses. Mais il est revenu au temple et a crié, « Rends-moi la joie de ton salut. » Celui qui l'a perdu, si tu l'as lui rendre, Seigneur. S'il vient avec un cœur repentant auprès de toi, et donne-lui la force de continuer à marcher, non pas en vaincu, en vainqueur. Merci pour cet instant que tu nous as donné pour ce rassemblement. Merci pour ceux qui sont endeuillés, que tu les consoles. Ceux qui sont malades, tu leur viennes en aide. Que ton secours soit apporté à ceux qui en ont besoin. Sois avec nous alors que nous allons rentrer. Au nom merveilleux, tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen.
Amen.
Amen. Dieu vous bénisse.